proposée par Sœur Agnès dit bien le problème.
Radicalisation.
Il ne faut pas laisser la raison démissionner et il faut bien tenter un essai de compréhension. Compréhension de cette radicalisation qui nous sidère et nous paraît inconcevable. Et j'ai 30 minutes. Nous parlons ici de radicalisation islamique, ce phénomène qui voit des jeunes, parfois très jeunes, 14-15 ans, partir pour le djihad en Syrie pour y vivre, y mourir, parfois en revenir, ou bien ne pas partir mais fomenter des actes violents ici en France. Le processus semble bien complexe et l'échec des soi-disant cellules de déradicalisation, qui sont en fait purement de la com' politique, confirme que nous n'avons pas pris la pleine mesure du problème et de sa complexité. Alors je vais essayer de dégager quelques thématiques qui s'entrecroisent dans ce phénomène, ce qui sera nécessairement rapide et insatisfaisant, car je suis très très loin de maîtriser mon sujet. Puis c'est très bien, vous n'aurez pas le temps de poser de questions parce que je pars juste après. Donc. Alors, radicalisation et islamisme. L'islam en lui-même est un monde très complexe qui nous est largement étranger. Nous appelons islam une réalité plurielle, comme si en disant christianisme, on s'imaginait qu'il se passe exactement la même chose dans l'abbaye d'Ankalka et dans la plus extrémiste et fondamentaliste des églises baptistes du fin fond du Kansas. Pour prendre la pleine mesure de notre méconnaissance de l'islam, je vous renvoie au livre d'Adrien Candiar, « Comprendre l'islam » ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien ». C'est très bien fait, ça se lit rapidement, c'est paru chez Flammarion en 2016, c'est un frère et c'est très bien. La puissance publique ne veut pas en connaître, elle ne veut pas savoir ce qu'est la religion. Et l'islam particulièrement nous gêne, c'est évident. Il est commode de reléguer le problème à la sphère exclusivement religieuse et de se défausser en disant de la radicalisation et du terrorisme, c'est la faute à l'islam. Et c'est tout aussi stupide et réducteur que de dire « ça n'a rien à voir avec l'islam ». Il faut donc, je crois, distinguer pour unir. Il y a une question qui est celle de l'islam et de sa responsabilité dans le phénomène. De quelle manière le phénomène de radicalisation islamique est-il un phénomène religieux ? Et une autre question qui est celle de la radicalité ou de la radicalisation elle-même. Jusqu'à quel point le phénomène est-il seulement religieux et quelles en sont dès lors les autres causes ? Le terme de radicalisation est déjà problématique en soi. Pourquoi serait-il connoté négativement ici, alors que le Parti radical de gauche a fourni des ministres à notre gouvernement, que nous prêchons nous-mêmes une radicalité évangélique ? J'espère bien que nous sommes tous en voie de radicalisation, à la suite du Christ. Je le revendique en tout cas pour moi-même. Et je crois qu'on confond trop volontiers la radicalisation religieuse et la radicalisation politique ou sociale, qui fait appel à la violence pour refuser tout compromis. La radicalisation religieuse signifie d'abord un retour à l'essence de la religion. Les réformateurs du XVIe furent des radicaux. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que radicalisation religieuse et politique vont de pair. Or, elles n'ont rien à voir. Le chartreux de l'autre côté, là derrière, il est radicalement religieux, mais il ne s'occupe pas de politique. Et un religieux modéré n'est pas une personne modérément religieuse, mais plutôt modéré politiquement. Et c'est bien ce que sous-entend d'abord l'expression de musulman modéré. On demande d'abord à un musulman modéré une certaine invisibilité sociale et politique et pas prioritairement un affadissement religieux, même si on sous-entend que les deux sont un peu liés. Ceci étant posé, de quelle manière le phénomène est-il religieux ? Peut-on sourcer la violence de la radicalisation et des terroristes dans la religion musulmane ? Il faut bien répondre que non, il n'existe pas de lien mécanique entre le texte coranique, les propos attribués aux prophètes, les hadiths, et puis la production de la violence de l'autre côté. En revanche, il existe une forme de porosité théologique et idéologique qui est due à des commentaires médiévaux qui sont relus à l'époque moderne, une porosité entre les tenants d'une vision extrêmement violente de l'islam, prônée par Daesh, et puis les tenants d'une vision très conservatrice, le wahhabisme d'Arabie Saoudite par exemple, qui est d'abord un phénomène purement religieux avant d'être politique. Et c'est là, dans cet espace étroit, entre une forme de violence et l'existence de traditions religieuses conservatrices qui ont une figure politique et sociale, c'est là qu'il y a une place pour une justification proprement religieuse, théologique, de la radicalisation et de la violence. Dimension, c'est probablement le fondamentalisme en islam. Toute tradition religieuse connaît un fondamentalisme et celui de l'islam est de nos jours dans une situation particulière pour ce qui est de son mouvement de retour aux sources, au fondement. Il faut comprendre que l'islam se présente comme l'aboutissement de la révélation monothéiste. L'islam, dans la bouche de Mahomet, dans la lettre du Coran, l'islam accomplit et remplace toutes les révélations juives puis chrétiennes. Abraham et Jésus sont des figures de prophètes dans le Coran, mais c'est Mahomet le dernier, le plus grand, le vrai révélateur de Dieu. L'islam est donc pour un musulman le summum, la meilleure religion, l'aboutissement de ce à quoi un homme peut parvenir dans la connaissance de Dieu et dans sa relation avec lui. Ce qui explique l'impossibilité de l'apostasie et de la conversion en islam. On est gentil d'opposer les droits de l'homme à l'islam, mais pour un musulman, ça n'est juste pas possible. Ça n'est pas possible. Parce que sa religion est l'aboutissement d'un processus de dévoilement historique. Il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Or, cette religion qui est la meilleure est en même temps celle d'une population qui a été dominée par les Occidentaux à travers le colonialisme au Maghreb et au Proche et Moyen-Orient. Et c'est la religion d'une population qui reste encore aujourd'hui économiquement dominée par l'Occident. Cette position ne colle pas avec la conscience religieuse que les musulmans ont de leur propre place dans l'histoire sacrée du monothéisme. Il y a vraiment une conflictualité spécifique de la relation entre l'islam et les religions occidentales. On ne retrouve absolument pas ça en Orient, parce que les religions d'Orient ne font pas partie de l'histoire des monothéismes qui conduit à l'islam. Et donc, s'il y a eu une telle erreur dans le développement de l'histoire, c'est qu'il faut revenir au début pour faire repartir l'histoire dans le bon sens, en évitant le moment où ça a pu dérailler pour l'islam, ce moment où il n'est pas devenu la religion mondiale. Ce fondamentalisme en islam, comme pour les monothéismes en général, se traduit par un projet social total qui englobe toute la vie privée comme publique des individus et des groupes d'individus. Et ça, c'est en opposition frontale avec la spiritualité occidentale qui est envisagée comme purement privée, et en opposition aussi avec le mode d'organisation de nos sociétés occidentales qui est spécifiquement non religieux depuis en gros le XIXe siècle. La seule issue pour un fondamentaliste est donc la rupture, une coupure avec son environnement manifestée éventuellement par une radicalisation. Mais il faut tout de suite tempérer cela. On croit trop souvent que la radicalisation est une étape dans un chemin bien balisé, un point de passage obligé dans un parcours fléché qui commencerait par le salafisme, puis passerait par le communautarisme à partir de l'observance de la charia dans un petit groupe très fermé, avant de se radicaliser dans un djihad qui au dernier stade deviendrait violent, en se traduisant par des actes de terrorisme ou la prise d'armes, ou bien en émigrant vers les terres de Daesh. Ils ne sont pas pratiquants, ils ne fréquentent pas assidûment leur mosquée, aucun ne fait du caritatif musulman, ils ne sont pas dans un parcours linéaire. Pareil pour la plupart des radicalisés en Syrie, c'est souvent la rapidité du processus qui étonne les proches, avec parfois une méconnaissance abyssale du Coran et une fréquentation très lacunaire de la mosquée la plus proche de chez eux. Leur parcours à eux non plus n'est pas linéaire, ils passent aussi et notamment par Internet. Il est donc bien difficile de dresser une typologie religieuse de ces trajectoires de radicalisation et même de dresser une typologie tout court. Les catégories théologiques, politiques, historiques semblent ne pas suffire. Il semble en tout cas clair que les radicalisés ne sont pas des intellectuels qui lisent des livres sur l'histoire du Proche-Orient et puis des traités théologiques et qui, après avoir réfléchi, se disent qu'ils doivent participer au djihad, que l'islam tel qu'il est proposé par le Coran ou la vie du prophète est opprimé par l'Occident et qu'il faut, pour pouvoir le vivre, partir ou tuer. Ça ne se passe pas comme ça. Ils rentrent plutôt directement par le djihad et vont ensuite éventuellement chercher dans le Coran ou les hadiths une validation de leur action. Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, qualifie souvent ces jeunes de « religieux paresseux ». Au lieu de passer 40 ans à prier 5 fois par jour, ils se font sauter pour aller directement au paradis. En gros, c'est ça. C'est un rapport assez curieux à la religion. Je ne prends que le terme, le salut offert, sans le parcours normal et la dimension existentielle et incarnée de la pratique religieuse. Quelque chose cloche. Ce ne peut pas être purement religieux, puisqu'ils ignorent et rejettent le fonctionnement même de l'islam en prétendant avoir trouvé un raccourci pour le paradis. Je crois donc que le facteur religieux est présent mais ne doit pas être surestimé. Pour des raisons psychologiques ou sociales, ces jeunes peuvent aussi éprouver une soif de radicalité que seul l'islam leur propose aujourd'hui. Et un chercheur, Olivier Roy, a ainsi pu dire qu'il ne s'agissait pas d'une radicalisation de l'islamisme, mais d'une islamisation de la radicalité sur un fond plus nihiliste que religieux. Les deux thèses s'affrontent, il y a eu un débat mémorable par journaux interposés courant 2015 entre Olivier Roy et Gilles Kepel sur l'affrontement entre les deux thèses. Peut-être que la vérité est quelque part au milieu, in medio stat virtus. En tout cas, pour la partie proprement religieuse islamique, on voit bien au minimum que la question demeure et qu'on a probablement affaire à des trajectoires très singulières, qui s'enracinent donc aussi dans le milieu social des radicalisés et des terroristes. Je voudrais donc, dans un deuxième temps, interroger le processus de radicalisation lui-même sorti du religieux. C'est mon deuxième temps, qui s'appelle la surprise de la rareté. Surprise de la rareté. C'est poétique, hein, la surprise de la rareté. Ce qui frappe, quand on regarde des florilèges de parcours de radicalisation, c'est l'extrême variété des trajectoires et la diversité des milieux. Si les terroristes sont plutôt d'origine maghrébine et ont souvent quelques connexions avec le milieu de la délinquance ou du banditisme, les radicalisés divers, fournis par une sélection d'articles de presse, un habitant de banlieue parisienne de moins de 30 ans qui se convertit à l'islam et à l'islam radical alors qu'au chômage, il vit une déception amoureuse. Des jeunes sortis de prison, là où ils ont eu un contact avec l'islam radical, différentes personnes qu'une pathologie psychologique rend plus disponibles à des discours extrémistes, y compris dans le tas des catholiques, des enfants de bonne famille, soit enfants de militaires, soit fils de cadre supérieur, habitant une banlieue pavillonnaire sans histoire, et même des élèves brillants dans des lycées prestigieux. Plusieurs cas donc. Je vais essayer de regarder d'abord ce qui peut expliquer la radicalisation chez des jeunes qui sont déjà musulmans, et puis ensuite chez les autres. Du côté de ceux qui sont déjà musulmans et qui viennent éventuellement de la petite délinquance, il faut prendre en compte des facteurs sociaux et économiques. Il y a ce que j'évoquais plus haut, la déception, même non consciente, face à un islam qui ne donne pas richesse, pouvoir et reconnaissance alors qu'il est la religion la meilleure, mais aussi et surtout une perception très nette d'une islamophobie bien installée dans la société française. Et un lien est fait naturellement entre les deux. Je suis marginalisé économiquement et socialement, je n'ai pas accès au marché de l'emploi, c'est parce que je suis musulman. D'ailleurs, sur ce terrain-là aussi, ce terrain de ma foi, on me rejette aussi. Il y a très nettement un sentiment de déclassement et un désœuvrement important dans de nombreux ghettos de la périphérie de nos grandes agglomérations. C'est un phénomène typiquement français, hérité de la décolonisation et de la guerre d'Algérie. On a construit ces grands ensembles rapidement, ils ont accueilli des rapatriés, puis des immigrés, et puis les deuxième et troisième générations. La mixité sociale qui pouvait avoir cours dans les quartiers à la fin des années 60 a complètement disparu. Les politiques publiques ont oublié ces zones pendant des décennies, sauf en période électorale, au point qu'elles deviennent des zones de non-droit. Et c'est là que se concentre une part importante de la population musulmane du pays. La radicalisation touche surtout les Maghrébins et, par exemple, pas du tout la population immigrée d'origine turque, qui pourtant subit les mêmes conditions socio-économiques. C'est le cas à Strasbourg, où il y a une très importante minorité turque. C'est pour ça que je vous parle des Turcs. Les Turcs ne sont pas beaucoup plus intégrés que les Maghrébins par la puissance publique française. Ils n'ont pas forcément plus d'aide. Ça ne marche pas forcément pour mieux avec des noms, avec leur voile, avec des noms à consonance étrangère, quand ils se présentent avec leur CV. Mais, ils ont des structures financées par l'État turc en France, qui forment leurs imams, financent leurs écoles, subventionnent largement leurs associations culturelles, ce qui fait des jeunes Turcs de l'agglomération strasbourgeoise des gens sans trop de problèmes d'identité. En tout cas, nettement moins que pour les jeunes d'origine algérienne, par exemple. La Turquie assure pour les Turcs la transmission de la religion et de son bain culturel propre, ce qui permet de l'intégrer dans un contexte social nouveau. Pour les Maghrébins, rien de tel n'est assuré. En pleine quête identitaire dans le désœuvrement qui les assaille et l'absence de perspective qui les attend, ils choisissent la rupture ou bien son radicalisation en ces termes, et je cite, « Ils rompent avec leurs parents, ou plus exactement avec ce que leurs parents représentent en termes de culture et de religion. Les deuxième ou troisième générations n'adhèrent jamais à l'islam de leurs parents. Ils ne représentent jamais une tradition qui se révolterait contre l'occidentalisation. Ils sont occidentalisés. Ils parlent mieux le français que leurs parents. Tous ont partagé la culture jeune de leur génération. Ils ont bu de l'alcool, fumé du shit, dragué des filles en boîte de nuit. Une grande partie d'entre eux a fait un passage en prison. Et puis un beau matin, ils se sont reconvertis en choisissant un islam qui rejette le concept de culture, un islam de la norme qui leur permet de se reconstruire tout seuls, car ils ne veulent ni de la culture de leurs parents, ni d'une culture occidentale devenue symbole de leur haine de soi. » Fin de citation. Il y a donc une rupture générationnelle très nette dans le rapport à la religion et aux institutions. Elle est aussi, cette rupture générationnelle, ce qui explique la perméabilité des esprits aux diverses théories du complot dans cette génération de descendants d'immigrés. Et on a vu que ces théories, ce discours de suspicion sur l'information dite officielle, rencontrent un grand succès dans les populations défavorisées. Cette perméabilité a été déclenchée notamment par les mensonges de l'administration Bush pour procéder à l'invasion en Irak suite aux attentats du 11 septembre 2001. Ces mensonges ont signifié à toute une frange de la population que l'Occident parle de valeurs qui ne s'appliquent pas à lui-même et que nos nations européennes, finalement, se payent de mots quand il s'agit de probité, de vérité, d'honnêteté, d'égalité et de justice. Il y a là une perte de confiance envers les États et les sociétés qui les portent. Cette méfiance se nourrit bien sûr à d'autres sources et d'autres facteurs, mais on peut dater pour la génération actuelle cette méfiance de l'époque post-11 septembre. De plus, Cette méfiance, dans les populations d'origine immigrée, est propre aux jeunes de la troisième génération. La première génération tentait de s'intégrer en France, la deuxième génération s'éloignait de ses racines par une rupture franche avec le pays natal pour pouvoir s'intégrer à la société française et à sa culture, et le contre-choc, c'est ce phénomène de la troisième génération, désormais bien étudiée et documentée en sciences sociales. Cette troisième génération qui, au contraire, manifeste un regain d'intérêt pour la culture d'origine, surtout si la deuxième génération n'a pas réussi à s'intégrer alors qu'elle avait fait des efforts. Ce qui est bien le cas en France. Et c'est ce qui déclenche ce malaise générationnel de la troisième génération, et même de la quatrième, quand on a des radicalisés très très jeunes. Ils ont vu leurs parents et leurs grands-parents abandonner leur culture d'origine et pourtant ne pas réussir à avoir une position sociale favorable en France. Donc, retour au statu quo ante. Le retour à la culture d'origine passe par une quête identitaire où on s'identifie, parce qu'on est soi-même en situation d'échec en France, on s'identifie à ceux qui, au Moyen ou Proche-Orient, sont les opprimés des puissances occidentales. Alors vous voyez qu'on est en plein conflit colonial non soldé. Merci les années 60. La distance géographique alimente le fantasme et le complot devient un scepticisme assez bien enraciné dans le monde musulman à cause de l'ancienneté du conflit israélo-palestinien. Vous en arrivez très facilement à des théories du complot juif mondial qui expliquent le monde en des termes binaires et permettent de rejeter la réalité immédiate et proche de soi. Daesh l'a très bien compris et entretient, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, de tels schémas cognitifs qui isolent et coupent et dont la dynamique religieuse propre n'est finalement pas si importante. Le religieux est dans leur propagande plutôt un vernis sur des codes très bien maîtrisés de l'univers des jeunes. Films, jeux vidéo, etc. Je vais donc être ici un peu provocant en disant que ce qui devrait étonner, finalement, dans la radicalisation, c'est que le phénomène est finalement assez rare, statistiquement. Si les causes possibles que je viens d'énoncer sont si partagées et communes, pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux ? Si ce n'est pas aussi mécanique, c'est donc qu'il ne faut pas s'intéresser seulement aux causes qui disent le pourquoi, mais qu'il faut s'intéresser au comment, au processus lui-même de radicalisation. Cela implique de s'intéresser à des trajectoires particulières et individuelles, loin de catégories sociologiques commodes à manipuler. On a pu parler comme ça à une époque du gangstérorisme des cités. On invoque beaucoup la radicalisation des prisons, l'islam des caves, tout ce que vous voulez. Il semble que ces causes-là sont importantes, mais ne suffisent pas à rendre compte de la finalement relative rareté du phénomène. Parce que si tout cela menait à la radicalisation, on devrait en voir plus. Or, ce n'est pas le cas. Je n'ai donc pas la réponse, je lève seulement un coin du voile. Pour les populations non musulmanes, non immigrées, les choses sont peut-être encore plus complexes. Pourquoi cet adolescent qui présente bien, qui habite un pavillon de classe moyenne dans une banlieue tranquille, va-t-il tout à coup se radicaliser et partir en Syrie ? On a l'impression que c'est surtout une sorte de nihilisme, un sentiment de vacuité de l'existence et d'inutilité de la vie, cette vie qui est proposée par l'entourage immédiat et par la société dans son ensemble, c'est tout cela qui va alimenter le désœuvrement. Et cette oisiveté malheureuse et coupable rend l'esprit plus disponible à des choses qui sortent de l'ordinaire, comme une soif de changement radical, d'absolu, de se sentir enfin utile, qui ne trouve un exutoire que dans la première proposition un peu extrême rencontrée, presque exclusivement d'ailleurs sur Internet, l'islam radical. C'est un raccourci sans doute un peu rapide que je fais là, mais je souscris quand même en partie à cette idée de l'islamisation de la radicalité, plutôt que la radicalisation de l'islamisme. En tout cas, pour toute une frange des radicalisés, ceux qui ne sont pas dans un bain culturel musulman depuis leur enfance. Voilà, pour Olivier Roy, il ne faut pas tout charger sur l'islam, mais aussi sur un désir de radicalité d'une bonne part de ces jeunes, radicalité que la société, dans le visage qu'elle présente actuellement, ne leur permet pas de trouver. Toute cette vie semble trop facile, trop molle, trop moche et trop inintéressante. Si la rencontre avec l'islam se fait en plus sur le fond d'une immense inculture quant aux faits religieux qui ne pensons foudre peut avoir lieu et la radicalisation peut s'amorcer. Dans un troisième temps, je vais essayer de répondre à la question « Que faire devant tout cela ?» et je vais axer mon propos sur la laïcité. Notre secours n'est pas dans la laïcité, surtout parce que c'est quelque chose que j'entends et qui m'inquiète un petit peu quand on dit « On va mettre plus de laïcité, tout va aller beaucoup mieux. » Troisième temps donc, 53. Si je parle de laïcité, c'est parce que c'est une des réponses proposées à la radicalisation. On entend depuis quelques mois, surtout à l'approche de nos élections, une petite musique qui promet un certain durcissement de l'application de la laïcité, afin, si on comprend bien les sous-entendus, de faire en sorte qu'enfin, il n'y ait plus le moindre voile islamique visible dans les rues de nos villes. C'est le sous-texte, je vous décode. Je suis en fait un peu inquiet de voir cette tendance s'enraciner progressivement dans le discours politique et dans le bruit médiatique qui l'accompagne. La laïcité à la française est, je crois, responsable d'un certain nombre d'aveuglements entretenus dans notre société, aveuglements que la radicalisation islamique et des attentats viennent révéler. Certains de ces aveuglements sont littéralement créés par la laïcité. Le fait de ne pas avoir de statistiques ethniques ou religieuses nourrit ainsi tous les fantasmes démographiques, voire la théorie du grand remplacement qui a cours dans des milieux d'extrême droite. D'autres aveuglements sont seulement induits par une forme de laïcité qui se fait plus vindicative et active, une laïcité de combat qui, contrairement à la lettre et à l'esprit des lois de 1905, prône une exclusion du fait religieux de tout espace public, et pas seulement des bâtiments officiels, mais aussi nos rues. Cette extension du domaine de la laïcité mène à une schizophrénie dont nous voyons les premiers effets. On demande par exemple, au nom de cette laïcité, on demande aux musulmans de se faire discrets dans l'espace public. C'était, il me semble, les mots d'un Premier ministre cet été après Nice. Que ce soit pour des comportements individuels, le voile intégral, ou pour des comportements collectifs. Bref, on exige d'eux une discrétion afin de les sortir du communautarisme et en même temps, on leur demande de se positionner en tant que musulmans et d'abord en tant que musulmans sur les attentats et la radicalisation pour les condamner. C'est une injonction paradoxale, une exigence absolument insoluble pour les musulmans. Je précise un peu mon propos. On attribue aux musulmans et même on leur réclame de manifester une communauté qu'on leur reproche par ailleurs d'avoir. Après les attentats en France, tout musulman était sommé de se prononcer en tant que musulman. C'est sans doute quelque chose dont nous, chrétiens, pourrions être tentés, de parler en tant que chrétiens sur tel ou tel sujet, même si nous sentons bien que notre baptême fait du Christ le fond de notre identité, et que, comme le disait Jacques Maritain, nous sommes appelés à agir en chrétien et non pas en tant que chrétien. Non pas en tant que chrétien, comme si on allait, sur un sujet donné, faire différemment ou agir autrement en tant que chrétien et en tant que grenoblois, par exemple. Comme si notre profession de foi en Jésus-Christ allait n'être qu'une part de notre personnalité et de notre existence. Les musulmans, notamment les théologiens et prédicateurs, devraient probablement intégrer davantage une telle distinction dans un discours qui est trop souvent politisé, la différence entre eux en musulman et en tant que musulman. La politisation du religieux ne fait pas de bien, elle n'apporte pas la peine, nous le savons suffisamment pour les catholiques. Mais le religieux peut irriguer une réflexion globale et se faire ainsi disponible pour tous, et non pas seulement pour ceux qui peuvent se dire musulmans et dire en tant que musulmans, je dis que. Mais pour pouvoir faire cela, il faut s'opposer plus fermement, je crois, à cette laïcité qui met en exergue les identités religieuses et les appartenances confessionnelles dans le but ensuite de mieux les bannir, on bannit après tous les signes d'expression publique de ces appartenances. Sans aller jusqu'à cette version maximaliste de la laïcité combattante, sa version standard nourrit déjà des aveuglements. On demande ainsi aux musulmans de s'organiser sur le même modèle que le catholicisme. C'était le but du Conseil français du culte musulman du président Sarkozy. Or, c'est précisément ce qu'on reproche aux catholiques, d'être organisés. J'explique. Dans le monde professionnel que j'ai connu ou dans le monde académique que je côtoie, il n'est pas forcément évident de se dire catholique. Et on sent bien, je caricature un peu, on sent bien que... Bon, à la limite, si tu es chrétien, fais-le intelligemment, sois protestant. Parce que là, chez les protestants, il y a une forme de liberté avec un clergé très réduit, qui apparaît beaucoup plus horizontal que la pyramide hiérarchique catholique qui fait de tout baptisé catho un petit soldat du pape, avec une conscience et une raison qui sont forcément bridées par des diktats venus de Rome. On est dans l'ordre du fantasme, je schématise beaucoup. Mais c'est quand même un petit peu... comme ça qu'on se représente la conscience d'un catholique. On reproche tacitement aux catholiques leur manque de liberté et de pensée et de parole. S'ils disent quelque chose, c'est forcément pour réciter le catéchisme, et c'est encore pire s'ils sont prêtres ou évêques. Malgré tout, la puissance publique est bien ravie d'avoir un clergé organisé, avec des interlocuteurs bien identifiés dans une organisation pyramidale efficace. Ça a beaucoup servi au tournant du XXe siècle, lorsqu'il avait fallu séparer l'Église de l'État, et encore aujourd'hui pour qu'un ministre, un préfet ou un maire trouvent des homologues avec qui discuter. Et on est précisément en train de reproduire ce schéma-là avec les musulmans. On a une population musulmane identifiée comme problématique, on leur demande de s'intégrer, de devenir invisible, et en même temps, on leur demande de s'organiser avec une structure de même type que l'Église catholique, pour pouvoir ensuite, sans doute, reprocher aux musulmans d'avoir un encadrement religieux, une doctrine régulée et un embrigonnement idéologique. La laïcité peut se faire schizophrène, je crois. Alors que faire si ce n'est pas la laïcité ? In 30. Évidemment, au lieu de grands mots, il faudrait surtout une action politique qui donne un avenir aux jeunes sans qu'ils aient besoin de trouver un exutoire dans la radicalisation islamique. Il faut une vraie politique de la ville qui favorise la mixité sociale, de l'emploi qui empêche enfin la discrimination, et une vraie politique de l'éducation nationale qui regarde enfin les choses en face. Toute chose rappelée fort utilement dans le tout récent document des évêques de France sorti jeudi, intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens de politique », disponible en libre, qui intéresse précisément l'éducation nationale et qui concerne aussi le volet religieux du processus de radicalisation. Je suis convaincu que nous manquons en France d'une vraie éducation religieuse. La laïcité nous empêche de l'envisager, mais cela demeure un impensé de l'enseignement, un enseignement non pas confessionnel, mais qui présenterait les courants religieux de la population de manière scientifique, démontrant par là que le champ de la religion n'est pas exclu de la rationalité moderne et vice-versa. Si le mot « éducation religieuse » vous chiffonne, prenez l'appellation « éducation aux faits religieux », qui est celle qu'avait choisie Régis Debray dans un rapport de 2002, où il prônait l'institutionnalisation de cet enseignement jusque dans l'école laïque. Je regrette amèrement que ce rapport soit allé rester lettre morte. Nous avons manqué une énorme occasion de retisser un lien apaisé entre les religions et la puissance publique, auprès d'une génération qui, de surcroît, est, nous le savons, plutôt plus religieuse que la précédente et qui est en attente de repères sur ce sujet-là aussi. Dans beaucoup d'autres pays d'Europe, un tel enseignement existe, parfois couplé à des activités pratiques, comme le service ponctuel dans des associations religieuses caritatives, comme c'est le cas dans certains Länder allemands. Les manuels que j'ai pu consulter, par exemple, sur l'enseignement du catholicisme ou du luthéranisme en Finlande sont d'excellente facture. C'est une vraie réflexion de philosophie de la religion et une présentation scientifique et académique du contenu de la foi qui est extrêmement stimulante pour un croyant comme pour un non-croyant. C'est personnellement ce que j'essaie de faire dans une partie des cours d'éthique de l'ingénieur que je dispense. Voilà, je sais très bien que tout cela est trop rapide, beaucoup trop incomplet, que j'ai brassé énormément de choses à la fois. Tout cela a été enregistré, donc je suppose que ce sera disponible d'une manière ou d'une autre sur le site de chalet.fr sans doute. Si vous voulez réécouter ça, surtout cette deuxième partie dans laquelle j'ai parlé, je m'en rends bien compte, très 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 vite. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'ai un train à 16h39.